La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
On commence ce matin par la Banque Laurentienne. On a souvent parlé de la banque. Et là, ils ont décidé de vendre un morceau de l'entreprise.
Le courtage aux particuliers de VMBL, donc Valeurs Mobilières Banque Laurentienne. Donc, tes clients particuliers qui achètent des actions ou des placements via Banque Laurentienne, il y a une section qui a été vendue à Industrielle Alliance. Bon, en français, si tu regardes le communiqué de presse, on dit que la transaction ne devrait pas être significative pour la banque. Ce qui veut dire que le produit de la transaction nette là, va avoir pas vraiment d'impact sur les résultats. Donc, je te vends une activité, je fais pas vraiment de profit, je fais pas vraiment de perte. En somme, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on déplace un bloc chez quelqu'un d'autre. Donc, Industrielle Alliance achète une partie de clientèle, 16 000 comptes clients de la banque, et on va inviter, après la transaction, des employés de la banque à transférer chez Industrielle Alliance, gestion privée. Maintenant.
Mais ma question, je pense qu'elle doit être simple. Qu'est-ce que ça cache ou qu'est-ce que ça montre?
C'est que la banque est trop petite pour être concurrentielle par rapport aux grandes banques dans certains secteurs. Il y a trop de coûts, il y a trop de sécurité, il y a trop de marketing, il y a trop de coûts fixes de système, il y a trop d'obligations. Donc, tu dis, on pourra jamais se battre là-dedans. Je te fais un parallèle. Mettons, moi, Paul, je veux commencer à vendre des piscines, puis je m'installe à côté d'un trivi ou d'un club piscine. Ben, bonne chance, Pierre-Yves. Donc, il y a des secteurs où tu n'as pas vraiment de chance. Et donc, on dit, on va faire une révision stratégique. On l'a fait. On s'est mis à vendre. On n'a pas vendu. On a eu des offres. On a reculé. On a dit, on va développer l'entreprise. On va continuer à la développer. Mais il y a une chose qui est bien importante. Répondre à une seule question. Quel est le plan? What's the plan? Parce que là, tu as les clients, les employés et les investisseurs qui se demandent, vous en alliez où comme ça? Parce que si tu réponds pas à cette question-là en 3 secondes, tu as un enjeu de long terme. Et donc, si ton plan, c'est de pas vendre, mais de continuer les activités, mais que tu vends des morceaux, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le but? Comment tu vas recruter des clients? Comment tu vas recruter des employés? Comment tu vas garder tes employés clés? En ne prenant pas de décision et en disant, ben, c'est pour le bien-être des actionnaires, on continue. Mais on continue par où? Et t'es une compagnie publique, là. Mmh. Donne-moi une direction. Le capitaine s'en va où? Parce que les moussaillons, ils suivent des capitaines. Et je comprends les enjeux de la direction. On se retrouve dans une situation où on peut pas être compétitif dans des secteurs. On les abandonne, ce que François Desjardins, à l'époque, avait conclu. Avait fait un plan stratégique, dit, on va s'en aller à le conseil. Et là, aujourd'hui, on vend une portion de la division conseil. Et là, je vais t'avouer que je suis perplexe. J'attends.
T'entends la suite, là.
J'attends la suite.
OK.
Mais bon, écoute, pour vrai, d'un point de vue comptable, tu regardes ça, tu dis, OK, tu vends des morceaux, donc t'enlèves une portion de potentiel développement, d'intégration, de synergie. Mais de l'autre côté, t'enlèves des coûts qui te font mal. D'accord. Mais c'est quoi le plan? Faites une annonce publique. Dis, c'est ça, on s'en va là. Voici où on s'en va. Après avoir dit, on fait une révision stratégique, ça prend une direction.
Très bien.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Parlons des chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Assez clair, en tout cas pour l'ensemble du pays, mais parlons de Montréal, là, c'est que le stock de logements est pas à la hauteur. Même si on annonce des mises en chantier, ce sera pas suffisant. Ça veut dire que ça va coûter de plus en plus cher pour se loger.
Entre 8 et 9 % de hausse en 2024 pour la région de Montréal, c'est quand même important. Même ça veut dire que même s'il y a des gens qui sont protégés par le tribunal administratif du logement, les gens qui sont pas dans le système, qui louent des nouveaux logements, qui changent de logement, risquent de vivre un choc tarifaire encore une fois. Et moi, j'amène ça du côté des plus jeunes qui nous écoutent. Le monde a changé. Pas trop pessimiste. Voyez pas ça comme une fin en soi, une hécatombe. Dites-vous simplement que vous êtes dans une période nord-américaine où il y a de la pression économique pour certaines raisons. On est sorti d'une pandémie, on a eu de l'inflation, il y a un manque de stock, il y a l'immigration. Et vous devez faire des choix plus intelligents que la génération d'avant. Je t'explique. Moi, j'ai 44 ans. Quand je voulais me louer un appartement, j'ouvrais le journal, j'appelais un numéro de téléphone, j'offrais 10$ de plus, puis j'avais l'appartement. Tu comprends? Là, c'est pas ça. Donc, ta planification stratégique, maintenant, elle doit te demander d'être plus mature qu'avant au même âge. Si tes amis disent « voyage, c'est le temps », moi, je te dirais « remplis ton CELIAP, c'est le temps ». Tu sais, c'est un peu ça. Les outils fiscaux sont là et il va y avoir un grand clash entre ceux qui vont se planifier un appartement, un milieu de vie, faire des choix géographiques versus ceux qui vont se laisser aller par la vague de la vie.
Est-ce que je peux t'amener un point de vue un peu contraire?
Ben oui, Paul, je sais que...
Non, mais je me base souvent sur les témoignages que je reçois. Oui. J'en ai un ce matin.
Vas-y.
C'est un jeune mi-trentaine.
Oui.
Il y a un peu d'épargne, mais pas beaucoup, et il rêve d'accéder à la propriété, et comme tout le monde, il constate que les prix sont élevés, que bon. Lui a des parents qui ont fait pas mal d'argent dans leur vie.
Ah ben là...
Il y a une sœur.
Oui.
Lui, de toute façon, un jour, je vais hériter.
Mais là...
Attends, laisse-moi finir. Un jour, je vais hériter, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais un jour, je vais finir par hériter d'une bonne...
En attendant, je vis...
Ben, en attendant, je vis un peu, puis oui, je vais payer des sommes importantes, mais je sais que dans 10 ans, 20 ans, ben, ça sera réglé.
C'est vrai. OK, tu me parles de quelqu'un de privilégié qui me dit « Pierre, t'écoute pas, je suis privilégié. » C'est sûr, là. Moi, je te parle, toutes choses étant égales par ailleurs. Tes enfants, tes parents sont pas venus au monde avant toi. Hein? Ils sont pas fonctionnaires, ils vont pas perdre leur régime de retraite avec leur mort. Puis... Tu sais, là, tu me parles d'un gars, tu dis, mes parents sont millionnaires, moi, je n'épargnerai pas. J'en connais plein des comme ça. Peut-être que je fais un billet
d'encre. Mais on sait qu'il y a des héritages imposants qui s'en viennent dans les prochaines années pour une génération.
OK, attends une minute.
Est-ce que ça va rentrer un peu tard, là?
Ça, c'est la question. Ton témoignage de la personne qui te parle, présentement.
Ouais,
là.
Ouais.
C'est pareil, OK. Alors, je veux dire qu'il y a 30 ans.
Je sais pas, là.
Qui est 30 plus 30, 65. OK, ouais. On jase. Ben, j'y annonce une petite patente, moi. Ici, à 60, ses parents ont 65, puis lui, à 30, 35, là. Ça veut dire que ses parents, ils vont peut-être mourir à 95. Donc, dans 30 ans. Donc, quand lui va toucher son RRQ. Donc, mettons que tu as un deal avec tes parents, c'est correct. Tu vas t'asseoir avec eux autres, tu dis, écoute, Roger, Ghislaine, je me fie sur vous autres, mon plan de retraite, je suis dans votre testament. Ça va. Mais, si Roger puis Ghislaine, ils savent pas que Cédric pense ça, puis qu'ils sait pas que, ils savent pas que dans 10 ans, ils vont leur demander 200 000 en amont pour vivre sa vie avant. Là, dans le fond, il est en train de me dire, moi, j'accumule rien parce que je vais hériter. Ça, c'est de prendre pour acquis que tes parents viront pas fou, qu'il y en a pas un des deux qui va partir avec un petit jeune puis tout y donner, qu'il y aura pas de maladie dégénérative qui va demander de payer 5 000 par mois pour tout liquider.
C'est vrai.
Ça, c'est penser que leur conseiller financier va les conseiller super bien puis qu'ils auront jamais de problème. C'est même penser qu'il y aura pas de malchance, pas d'évaluation terrestre, pas de changement, pas de schisme, puis que tout va rester pareil, toutes choses étant égales par ailleurs. Hey, ça, je te dis, c'est presque du jovialisme, là. Hey, Jean-Marc Chaput sort de ce corps, mais attends, je vais t'amener ailleurs, là.
Fais ça vite.
OK. Mettons que t'es un jeune, tu vois que les appartements sont rendus des micro-appartements de 500 pieds carrés, que les taux directeurs vont baisser, que l'immobilier va monter en coût, qu'il y a 7-8 outils fiscaux que ton ami va prendre pendant que toi, tu vas checker ça, ces lignes de côté. Ben, bonne chance. Tu sais, moi, je vois des gens à 45 ans présentement qui me disent la phrase suivante. J'aurais dû, ben, du don, dû faire autre chose de ma vie. Ben, voilà. Salut, Paul.
C'est notre philosophe comptable.
Ben oui.
Je vous souhaite un excellent week-end.
Bon héritage à tous.
Salut. Money.
C'est 23.